Nous sommes en compagnie de Dominique Hamon, qui est agrégé d'histoire, professeur honoraire en classe préparatoire au lycée Henri IV, concepteur des sujets et président du jury du concours d'entrée à l'ESSEC EDEC pour l'épreuve d'histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain. Il est par ailleurs chargé de cours au Centre académique de formation administrative à Paris. Et il est l'auteur des chapitres « L'Europe et l'énergie, l'Europe et la mondialisation et l'Union européenne dans les relations internationales » dans l'édition 2009 de « Géopolitique de l'Europe », un ouvrage dirigé par Bernard Elissalde, édité chez Nathan. Alors Dominique Hamon, l'Europe est née en 1952 avec la création par Maurice Schumann de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Où en est en 2009 l'Europe de l'énergie ?
L'Europe de l'énergie a été à l'origine en quelque sorte du projet européen à travers la CECA. À l'époque, c'était compréhensible puisque le charbon était en particulier le moteur de la reconstruction des économies européennes détruites par la guerre. Mais paradoxalement, la CECA, puis ensuite l'Euratom, ont été des échecs sur lesquels il n'est peut-être pas nécessaire de s'apesantir, mais pour des raisons toujours un peu les mêmes, à savoir la difficulté des États européens de renoncer à leurs prérogatives nationales pour effectivement les transmettre à une autorité supranationale, car l'ambition européenne, elle est sans précédent, elle est unique au monde. Il s'agit de renoncer partiellement à sa souveraineté nationale au profit d'une instance supranationale, et ça, évidemment, aucun autre pays ne l'a jamais fait avant. Et donc, après ces échecs, les Européens sont confrontés à la question de l'énergie à l'occasion des chocs pétroliers.
73.
Voilà, en 1973, et il y a des tentatives à ce moment-là de coordonner des politiques nationales pour atteindre des objectifs communs, mais il n'y a pas de politique énergétique commune. Il n'y a pas de politique énergétique commune parce que les structures nationales, les pesanteurs nationales en quelque sorte, les structures économiques. En France, on a un secteur public très fort. En Allemagne et en Grande-Bretagne, on a au contraire des entreprises privées. Donc, il y a des différences fondamentales en termes de structure, en termes de culture historique. Le rôle de l'État en France, par exemple, est un déterminant tel qu'on ne parvient pas à mettre en œuvre une politique énergétique commune. Et puis on oublie cela avec le contre-choc pétrolier, le pétrole redevient bon marché, etc. Aujourd'hui, retour en force de la question énergétique, à cause évidemment de la rareté programmée, de la disparition programmée du pétrole, à cause aussi évidemment du lien dont les Français, je crois, sont maintenant très conscients entre énergie et environnement.
Oui, effectivement, c'est ça qui change la donne.
Voilà.
C'est le côté environnemental.
Donc il faut intégrer une politique énergétique et environnementale qui aboutit tôt ou tard à réduire la part du pétrole et du gaz par nécessité, en quelque sorte, par double nécessité, réduire la part du pétrole et du gaz dans la consommation énergétique commune.
Alors à propos d'environnement, la France fait figure d'exception en matière nucléaire.
Alors effectivement, là, il y a un vaste débat citoyen qui peut s'ouvrir, hein, à savoir que l'électricité nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre, hein, ou quasiment pas. Et donc, effectivement, la France apparaît de ce point de vue comme un bon élève, mais elle se heurte évidemment à l'opposition des antinucléaires. C'est l'une des grandes contradictions d'une coalition rose-verte, hein, sur cette question en France aux prochaines élections. Hein. Il est certain que les Verts et les socialistes ne pourront pas trouver facilement un programme commun sur cette question. Mais c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose en Italie. Mais justement, en Allemagne, avec la victoire de la CDU et du Parti libéral, on va revenir au nucléaire. Il a été abandonné par les SPD, Schröder et Verts en l'an 2000, en disant on ne construira plus une nouvelle centrale. Et la victoire maintenant des partis libéraux et chrétiens-démocrates aboutira à un retour du nucléaire en Allemagne d'une manière ou d'une autre. Berlusconi a, ça y est, voté une loi l'été dernier pour revenir au nucléaire. Donc il y a un grand retour du nucléaire en Europe. car, évidemment, il faudrait prouver que les énergies renouvelables, c'est-à-dire les éoliennes ou les panneaux solaires, soient capables de remplacer les centrales nucléaires.
Finalement, on est en pleine contradiction entre défense de l'environnement et le retour du nucléaire. Oui. On verra comment ça se réglera, ça ne va pas être très très simple. Cette énergie est un enjeu géopolitique pour l'Europe qui ne peut se passer de gaz russe. On évoquait le gaz tout à l'heure.
Alors voilà, c'est la deuxième raison pour laquelle l'énergie redevient un sujet brûlant d'actualité. C'est qu'effectivement, les Français, par exemple, ont découvert, mais tous les Européens en général, ont découvert qu'ils dépendaient beaucoup du gaz russe et que les Russes avaient osé, ce qui était pratiquement inimaginable, en tout cas ce que les Soviétiques n'avaient jamais fait, inimaginable, ils ont coupé le gaz.
Ah oui, non, ça c'est sûr. Ils ont coupé le robinet,
bien sûr, aux Ukrainiens, mais l'Ukraine est traversée par les gazoducs qui vont jusqu'à Paris et jusqu'en Allemagne et jusqu'en Italie. Et ils ont coupé de telle sorte que quand même 12 pays, en janvier dernier, 12 pays de l'Union européenne ont été privés totalement de gaz russe pendant 15 jours.
Et puis en janvier, c'est sympathique.
Voilà, ouais. Pour la dizaine de pays de l'Europe de l'Est qui dépend uniquement du gaz, qui ne consomment que du gaz russe, eh bien ils ont eu froid pendant 15 jours.
Oui, et nous, on n'avait qu'une peur, c'était que ça nous arrive à nous. Oui. Alors, est-ce qu'on parle des futurs oléoducs Nabucco? Il y a South Stream, Nord Stream qui doit être fini, je pense. Est-ce que ça suffira à contourner le gaz russe et à approvisionner l'Europe?
La bonne question, c'est est-ce que ça a du sens de contourner le gaz russe?
Ah.
Parce que, bien sûr, ne pas dépendre de la Russie suppose qu'on achète du gaz à d'autres pays, ou suppose aussi que ce gaz qui vient en dehors de Russie ne traverse pas la Russie. Mais d'où viendrait-il ce gaz qui ne dépendrait pas de la Russie? Eh bien, il ne peut venir que de l'Iran. Alors moi, je pose la question, est-ce que c'est vraiment un moindre risque de dépendre de gaz iranien que de gaz russe?
C'est vrai que la question reste posée, mais on n'a pas la réponse, là.
On n'a pas la réponse. Mais finalement, le mieux est certainement... La vraie réponse est probablement d'importer de plus en plus du gaz liquéfié, comme du pétrole, c'est-à-dire du gaz liquide, venant de beaucoup plus loin et de partout, en quelque sorte. Le problème de la dépendance russe, ça vient peut-être du fait que Poutine est un homme politique réaliste qui n'hésite pas à nous priver de gaz. Mais surtout, le problème, si vous voulez, c'est de diversifier la géographie des ressources énergétiques européennes. Donc on peut acheter du gaz à d'autres pays à condition que ça prenne la voie maritime.
Ah oui, et voilà. ça change tout.
Et ça va se développer. Ça va se développer. La France va construire des terminaux méthaniers pour effectivement accueillir encore plus qu'elle ne le fait. Elle est un de ceux qui en importe le plus, importer davantage de gaz liquéfié.
Et donc qui viendrait de
qui viendrait du Nigeria, qui viendrait du Moyen-Orient, qui vient déjà d'Algérie, qui viendrait du Qatar, qui viendrait d'autres pays.
Oui. Très bien. Alors quel rôle joue réellement l'Europe dans la mondialisation économique, maintenant qu'on a parlé de l'énergie?
Quel rôle joue l'Europe dans la mondialisation? Elle joue un triple rôle, un rôle économique, un rôle géopolitique et un rôle normatif. Un rôle économique dans la mesure où elle est un grand marché qui est la base stratégique des entreprises pour le monde entier. Et en quelque sorte, pour une PME, on peut faire l'apprentissage d'un grand marché de 500 millions de consommateurs, excusez du peu, avant de se lancer à la conquête de la Chine ou d'autres continents. Pour les grandes entreprises qui sont déjà grandes à l'échelle européenne, on a là une base territoriale du type marché intérieur américain qui permet ensuite de se lancer dans le grand bain de la mondialisation. L'euro, c'est très important, c'est toujours le rôle économique, a servi de bouclier. L'euro a été très impopulaire. 98% des Français sont persuadés toujours aujourd'hui que l'euro est facteur de vie chère. On n'a pas le temps de démontrer que
c'est pas vrai,
mais bon. Tout le monde est persuadé du contraire. Mais au moins, je peux défendre l'euro qui est souvent très décrié, en disant ceci, qui est absolument incontestable quand on voit la situation des pays de l'Est ou de la Grande-Bretagne, par exemple, c'est que ça nous a mis à l'abri des conséquences monétaires de la crise actuelle. On en serait aujourd'hui avec le franc à la troisième ou quatrième dévaluation du franc. Le franc aurait baissé de 30% sur les marchés financiers, ce qui veut dire, là, c'est pour le coup, une hausse des prix de 30%, car quand on dévalue 30%, les prix augmentent d'autant. Donc évidemment, c'est le franc qui est facteur de vie chère, c'est pas l'euro.
Oui, c'est une stabilité, mais c'est parce que c'est conçu dans la mondialisation. Voilà. Et le fait de refuser l'euro, c'est refuser la mondialisation en quelque sorte.
Si on peut dire ça comme ça, effectivement, hein, parce que ça rend l'Europe plus forte malgré tout. L'euro est fort aujourd'hui et ça rend l'Europe effectivement attractive à certains égards pour les capitaux étrangers, des choses comme ça. Le risque de change est moindre hein, quand on prête en euros que lorsqu'on prête en dollars.
Sauf que maintenant, avec l'Amérique, ça se passe plus très bien. On est trop fort et eux trop faibles.
Ah voilà, ça dépend dans quel sens on voit les choses. Si on est touriste américain comme moi au mois de touriste aux États-Unis comme moi au mois de septembre, c'est très intéressant d'avoir un euro à 1,40 ou 50.
Oui, ça c'est sûr. Oui. Mais quand on est industriel, ça l'est beaucoup moins. Comment se porte justement notre commerce extérieur ?
De l'Europe ? Là, évidemment, la question est très difficile parce que chaque État membre exporte avec le reste du monde et l'idée de faire une statistique globale est difficile à concrétiser. En fait, c'est plutôt avec la zone euro, hein, dans la mesure où qu'on peut chercher à... Qu'on peut essayer de développer. La zone euro, effectivement, est telle que les 16 États membres depuis le 1er janvier qui sont membres de la zone euro, ces 16 États ont en quelque sorte une monnaie intérieure unique. Ils constituent sur le plan monétaire un seul et même État. Donc entre eux, ils font du commerce, mais ça n'est plus à proprement parler des exportations et des importations puisque c'est payé dans la même monnaie. Autrement dit, lorsque la France exporte en Slovaquie, eh bien, évidemment, c'est comme si la Bretagne exportait à la Normandie, puisque oui. C'est la même monnaie. Mais avec le reste du monde, il y a un vrai problème, effectivement, qui est celui de la balance commerciale globale. La bonne santé de l'euro vient d'une balance commerciale globale de la zone euro avec le reste du monde. Et à ce moment-là, il y a des passagers clandestins, c'est-à-dire que l'Espagne, qui a un très gros déficit, bénéficie de l'excédent commercial de l'Allemagne dans la même zone. Hein, et par conséquent, oui. Hein, comme si la Bretagne était déficitaire et la Normandie excédentaire, eh bien évidemment, c'est mutualisé à l'échelle nationale. Et là, c'est mutualisé à l'échelle de la zone euro. Autrement dit, les Espagnols, pendant longtemps, ont pu, grâce à cet excédent allemand, avoir un euro fort qui était intéressant pour eux, hein, dans la mesure où ça leur permettait d'emprunter à des bateaux d'intérêt, des choses comme ça.
Est-ce que l'exportation dominante de l'Europe, on peut la cerner ? Qu'est-ce que nous exportons de façon...
Nous les Européens ?
Oui, nous les Européens.
Nous exportons beaucoup de produits agricoles. Nous sommes la première puissance mondiale agricole.
Voilà, donc
nous
c'est
nous
ça
disputons
qui domine.
Chaque année à quelques décimales près avec les États-Unis. Mais je parle uniquement en termes de commerce extra-communautaire. Mm-hmm. Eh bien, l'Union européenne est la première ou la deuxième, enfin fait jeu égal, on va dire, avec les États-Unis en termes de puissance commerciale agricole.
D'accord, donc c'est ça qui domine.
Oui.
Et les bourses européennes, est-ce qu'elles existent réellement dans la finance mondiale ?
Il y a des bourses en Europe, mais elles ne sont pas des bourses européennes. Hein, c'est-à-dire que c'est l'un des grands échecs hein, de la finance du projet qu'on aurait pu avoir de construire une Europe financière unie, apte à rivaliser avec Wall Street. Car finalement, bon, c'est facile à comprendre aussi, compte tenu de ce que je disais au tout début, les Anglais et les Français ne sont pas capables de fusionner leurs bourses. Enfin, c'est absolument inimaginable. Mm-hmm. On ne voit pas Londres et Paris. C'est la guerre de 100 ans qui continue quand même. Hein, et donc, on ne voit pas comment on pourrait fusionner. On n'aurait peut-être plus imaginé davantage une fusion de la bourse de Paris et de la bourse de Francfort, mm-hmm. hein, le couple franco-allemand, etc. Eh bien, il n'en est rien, car il y a un problème de susceptibilité. Pas question pour les Allemands de fusionner avec les Français hein, qui sont parfois considérés comme manquant de sérieux. Alors du coup, hein, mais c'est en cela que l'Europe est très intégrée à la mondialisation, hein, mais c'est du point de vue du projet de l'Union européenne, c'est un échec, c'est le fait que Paris est très lié maintenant à New York. Il y a eu une fusion entre Amsterdam, Bruxelles, Paris et Lisbonne. Donc c'est une fusion limitée à l'intérieur de l'Europe et très associée à Wall Street.
De quelle politique étrangère l'Europe a-t-elle les moyens ?
Il y a deux politiques étrangères possibles. Il y a celle qu'elle fait déjà. C'est la politique étrangère que les spécialistes de géopolitique appellent le soft power, hein, c'est-à-dire plus séduire que dominer. C'est toute la problématique de l'Europe normative qui propose un modèle de normes en droit international, et etc. Et le soft power, on a parfois tendance en Europe à faire la fine bouche en disant « c'est pas sérieux, tant qu'on n'aura pas des parachutistes pour les envoyer sur Moscou et sur la place rouge, on ne pèsera pas ». Je suis désolé, regardez les États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui ont réalisé avec l'élection d'Obama une percée spectaculaire sur le front du soft power. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Obama est beaucoup plus fort que Bush parce que, tout simplement, il est plus difficile aujourd'hui d'être anti-américain qu'hier. Et il l'est parce que c'est la nouvelle image que présente Obama. Donc le soft power, oui, séduire, plaire, proposer un exemple de gestion des conflits internationaux par le droit, par la négociation, par le compromis, la culture du compromis, tout ça a fait que l'Europe a une vraie influence, jusqu'à même être imitée en Amérique latine avec le Mercosur.
Oui,
mais en même temps, ceux qui rêvent d'une Europe puissance voudraient avoir des moyens militaires.
Oui, parce que tout ça ne fait pas une défense européenne. Ça
et
fait,
voilà.
Hein,
et il y a beaucoup d'obstacles à la réalisation de cette Europe de la défense. Bien sûr, le grand obstacle traditionnel toujours mis en avant et qui est un vrai problème, c'est la relation avec les États-Unis. Les Européens sont divisés dans leur relation avec les États-Unis. Mais je voudrais mettre en relief, à mon avis, le facteur principal de la faiblesse militaire de l'Europe par rapport à une éventuelle ambition d'égaler les États-Unis, c'est la faiblesse financière. Les citoyens européens plébiscitent l'idée d'une Europe de la défense à travers les sondages qui sont faits à l'échelle européenne, qu'on appelle l'eurobaromètre. Ils les plébiscitent. Pour autant, combien de Français, combien d'Allemands, combien d'Anglais accepteront de payer un impôt européen pour financer une défense européenne qui est à peu près à 27 d'un montant équivalent à la moitié de celle que font les États-Unis et qui est divisée en 27, hein, qui est dispersée en 27. Donc une Europe puissance, elle a un prix. C'est pas seulement le prix du sang, vouloir que les soldats meurent, car on ne veut plus que les soldats meurent aujourd'hui. C'est pas seulement ça. Dès qu'il y en a 10 qui sont morts en Afghanistan, oui, ça fait un drame.
Oui. Hein.
Donc c'est pas seulement le prix du sang, c'est le prix tout court. Mm-hmm. C'est combien d'euros ça coûte de faire des armées européennes.
Et ça coûte cher.
Voilà, ça coûte cher.
Le rôle de l'OTAN dans tout ça, dans l'établissement de notre politique de défense ?
Bien, le rôle de l'OTAN, voilà, c'est tout à fait significatif de ce que je disais avec Obama et le soft power. On a remarqué à peine que la France avait rejoint le commandement intégré de l'OTAN au printemps dernier. On l'a à peine remarqué, ça n'a pas fait débat.
Ben non, parce qu'on y était quand même déjà presque.
Voilà, parce qu'on y était déjà presque, mais pas totalement. Et quand on se souvient quand même des querelles du passé, sans remonter au général de Gaulle, hein, sur l'attachement que la France avait à son indépendance vis-à-vis des États-Unis, le ralliement intégral de la France à l'OTAN est passé comme une lettre à la poste. Et c'est quand même parce qu'effectivement, c'est plus facile d'être dans l'OTAN aujourd'hui avec Obama qu'avec Bush.
Eh ben, les temps ont changé, voilà, tout simplement. Alors, Dominique Hamon, merci. Donc, je rappelle la parution de l'ouvrage auquel vous avez collaboré. C'est Géopolitique de l'Europe. C'est paru chez Nathan. C'est Bernard Elissalde qui en est le coordinateur. Et dans les auteurs, il y a aussi Philippe Dugaux, Gérard Loison, Daniel-Pierre Hélien et Vincent Thébault. C'est la deuxième édition. Bon, c'est sérieux comme ouvrage, hein. Il y a des cartes, il y a tout ça. Donc après, on peut à peu près tout comprendre de la géopolitique de l'Europe si on prend la peine de plonger le nez dans cet ouvrage. Juste après la musique, on retrouvera Pauline Fraisse.